Vous écoutez, on lit pour vous.
Gros plan sur une avancée majeure. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 18 mai 2025 dans La Presse. Un nouvel antidouleur, moins susceptible d'entraîner la dépendance que les opiacés, a été approuvé en janvier 2025 aux États-Unis, pendant qu'un chercheur québécois a fait une découverte semblable. Le médicament américain, approuvé en début d'année, appelé suzetrigine, provoque moins de dépendance parce qu'il ne cible pas les régions du cerveau sollicitées en cas de douleur, comme le font les opioïdes. Il bloque plutôt un canal sodique des nerfs qui sert normalement à transmettre les signaux de la douleur au cerveau. A priori, comme on agit à la périphérie du circuit de la douleur plutôt que dans le cerveau, où la réaction neurologique à la douleur survient, il n'y aura pas d'accoutumance ou de dépendance, explique Robert McQueen, professeur de pharmacie à l'Université du Colorado à Anschutz, qui a publié en décembre une analyse de la suzetrigine pour l'ONG américaine Institute for Clinical and Economic Review, ICER. Les opiacés favorisent l'activité des neurones émettant de la dopamine, la molécule du plaisir. Le corps s'habitue à la présence de dopamine et a besoin de doses de plus en plus fortes pour avoir le même plaisir ou pour soulager la douleur. Sans la dopamine générée par les opiacés, la douleur devient constante. La suzetrigine, pour laquelle son fabricant, Vertex, n'a pas encore demandé d'autorisation au Canada, n'est pour le moment autorisée que pour la douleur aiguë par la Food and Drug Administration, FDA, aux États-Unis. Les données des essais cliniques semblent montrer qu'elle ne sera pas efficace contre la douleur chronique, un problème qui est à la source de nombreux cas de dépendance, selon M. McQueen. La douleur aiguë dure moins de 7 jours, par exemple après une intervention chirurgicale. Plus cher, mais rentable. Mais ce nouveau médicament devrait tout de même diminuer le problème de la dépendance aux opioïdes, estime le chercheur. Il est 20 fois plus cher que les opioïdes, mais il a un risque extrêmement faible de créer de la dépendance, dit M. McQueen. Et 0,4% des gens qui prennent des opioïdes pour de la douleur aiguë, finissent par être dépendants. La dépendance coûte extrêmement cher au système de santé. Nous avons calculé que la suzetrigine est rentable même si elle diminue de 5% le nombre de cas de dépendance dû à un traitement de douleurs aiguës. Selon l'étude, 3,1% des patients qui se font prescrire des opioïdes pour la douleur aiguë, les prennent plus de 3 mois. Cela inclut ceux qui deviennent dépendants et ceux dont la douleur aiguë devient chronique. Plus de 80,2 millions d'Américains reçoivent une ordonnance de médicaments antidouleurs chaque année. La suzetrigine pourrait-elle causer d'autres ennuis de santé? A priori, non, parce que la FDA est très conservatrice, avance Robert McQueen. Il peut y avoir des problèmes de reins, mais ils surviennent très rarement. Ces effets secondaires pourraient cependant être plus fréquents que ce qui a été mesuré lors des essais cliniques, admet le chercheur. Des découvertes utilisées pour d'autres maladies. À À l'Institut de recherche clinique de Montréal, IRCM, Peter Schiller a consacré une bonne partie de sa carrière à tenter de trouver de nouveaux analgésiques qui n'induisent pas les dangereux effets secondaires des opiacés tels que la morphine. Il confirme que la suzotrigine est une avancée majeure. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles catégories de médicaments antidouleurs, dit-il. Mais ça fait aussi longtemps qu'on pense qu'agir en périphérie du circuit de la douleur entraîne moins de dépendance. M. Schiller a identifié dans les années 1980 des molécules non opioïdes améliorant le fonctionnement des mitochondries, une portion des cellules humaines qui fabriquent leur énergie. Ce fonctionnement amélioré des mitochondries diminue le développement de la douleur neuropathique, explique-t-il. La douleur neuropathique découle d'un dysfonctionnement du système nerveux. L'avantage des molécules découvertes par le chercheur de l'IRCM est qu'elles n'affectent pas les circuits du cerveau qui jouent un rôle dans la dépendance. Les découvertes de Peter Schiller, qui a 420 publications et 17 brevets à son actif, n'ont pas permis, pour le moment, le développement d'un médicament antidouleur, malgré des essais prometteurs sur les animaux. Une compagnie américaine, Stealth, travaille toutefois à utiliser ces molécules pour d'autres problèmes des mitochondries. Selon Renee McCarthy, PDG de Stealth, la FDA évalue actuellement son utilisation pour le traitement du syndrome de Barth, une maladie rare. Et un essai clinique de phase 3 est en cours pour traiter la dégénérescence maculaire. L'approbation d'un médicament survient après des essais cliniques de phase 3. Christiane Hope, PDG de la Fondation canadienne du syndrome de Barth, soutient que le médicament développé par Stealth pourrait changer la vie des patients. C'est un grand espoir pour nous, se réjouit-elle. Le syndrome de Barth est causé par une mutation génétique qui a des effets très différents d'un patient à l'autre, allant de cardiopathie à des problèmes de faible masse musculaire et des retards de développement. Le fils de Mme Hope, qui a 38 ans, est l'un des plus vieux patients atteints de cette maladie au Canada. Robert a reçu son diagnostic à 5 ans et a le tiers de la masse musculaire qu'il devrait avoir. Il a beau faire de l'exercice, ça ne change rien. Il a déjà habité par lui-même, mais il ne pouvait pas avoir un travail en plus de s'occuper d'une maison. Alors il est revenu chez nous, relate-t-elle. Ils vivent à Mississauga, près de Toronto. En savoir plus. 54%. Nombre d'opérations menant à des douleurs modérées chez les patients, alors que 12% des interventions mènent à des douleurs extrêmes. Source, ICER. 307. Nombre de morts par surdose d'opioïdes au Québec en 2022. Au Canada, ce nombre était de 7560, alors qu'il était de 108 000 aux États-Unis pour la même année. Source, Statistique Canada et ICER. C'était « Gros plan sur une avancée majeure », un texte de Mathieu Perrault, paru le 18 mai 2025 dans La Presse.
chocolat noir et B, ces aliments qui prolongeraient la vie. Un texte de Laurie Henry, paru le 6 juin 2025 dans Science et Vie. La diversité des flavonoïdes présents dans notre alimentation influence directement le risque de maladies chroniques. Au-delà des apports quantitatifs, varier les sources, fruits, thé, chocolat noir, offrirait une protection accrue. Une stratégie nutritionnelle simple, accessible, aux effets mesurables sur la santé publique et la longévité individuelle. Les chercheurs ont voulu aller au-delà de la simple mesure des apports en flavonoïdes en se concentrant sur la diversité des composés consommés. Pour cela, ils ont utilisé un indicateur issu de l'écologie, l'indice de Shannon, adapté aux données nutritionnelles. Ce dernier permet d'évaluer non seulement combien de types de flavonoïdes une personne consomme, mais aussi dans quelle proportion. Cette approche innovante a révélé une tendance jusqu'ici peu explorée dans les études nutritionnelles. Consommer une large variété de flavonoïdes est plus bénéfique que d'en consommer beaucoup, mais de manière monotone. Dans le détail, les personnes ayant la plus grande diversité, soit en moyenne 9 à 10 types différents par jour, présentaient des indicateurs de santé nettement meilleurs. Cette observation vaut même en maintenant constant le niveau total d'ingestion. Autrement dit, deux personnes consommant la même quantité globale de flavonoïdes peuvent avoir des risques de maladies très différents selon la diversité de leurs sources alimentaires. L'analyse a également montré que les personnes avec les profils les plus diversifiés étaient plus souvent non-fumeuses, plus actives physiquement et suivaient globalement des régimes plus équilibrés. Toutefois, même après ajustement pour ces facteurs, la diversité restait un prédicteur indépendant et significatif des bénéfices observés. Ce lien clair entre variété et réduction des risques conforte l'idée que la pluralité des composés bioactifs agit en synergie dans l'organisme. Des aliments communs aux effets puissants. Les flavonoïdes se retrouvent dans de nombreux aliments courants du quotidien, souvent perçus comme de simples éléments d'une alimentation équilibrée. Pourtant, ces composés végétaux jouent un rôle biologique actif et ciblé dans l'organisme. Thé, B, pommes, agrumes, chocolat noir, raisins, vin rouge, autant d'aliments aux propriétés chimiques distinctes. Leur point commun, contenir des sous-types spécifiques de flavonoïdes. On trouve les flavans 3-ol dans le thé et le cacao, les anthocyanines dans les fruits rouges ou les flavanones dans les agrumes. Mais tous les flavonoïdes n'agissent pas de la même manière. Certains participent à la régulation de la pression artérielle, d'autres influent sur l'inflammation ou les taux de cholestérol. Cette spécificité moléculaire explique pourquoi varier ces apports est essentiel. Il ne suffit donc pas d'augmenter les quantités. La diversité permet de mobiliser une gamme plus large de mécanismes protecteurs. Le thé, par exemple, bien qu'il soit une source majeure de flavonoïdes dans les régimes occidentaux, concentre surtout une seule catégorie de composés, les théaflavines et les théarubigines. À l'inverse, intégrer des aliments comme les baies ou les agrumes permet d'élargir le spectre des effets potentiels. Il est plus bénéfique de consommer différentes sources que de répéter la même, insiste le docteur Parmentier. Ce constat amène à repenser la logique de certains régimes alimentaires monotones ou trop ciblés. Même les petits gestes, comme ajouter des myrtilles aux céréales ou choisir une orange en dessert, participent à augmenter la diversité des flavonoïdes. Des mécanismes variés selon les flavonoïdes des aliments. Comme mentionné précédemment, les flavonoïdes regroupent une large famille de composés d'origine végétale structurés en sous-classes selon leur configuration chimique. Chaque sous-classe interagit avec l'organisme de manière spécifique en activant ou modulant différentes fonctions biologiques. Par exemple, Les flavans 3-ol, très présents dans le thé et le cacao, sont connus pour améliorer la fonction endothéliale, c'est-à-dire la capacité des vaisseaux sanguins à se dilater. Ils augmentent la biodisponibilité du monoxyde d'azote, un gaz qui aide à détendre les parois vasculaires, réduisant ainsi la pression artérielle. Les flavonones, que l'on trouve principalement dans les agrumes, participent à réduire l'inflammation et à améliorer le métabolisme lipidique, avec des effets bénéfiques sur les taux de cholestérol. Les anthocyanines, responsables des teintes rouges et violettes des baies et raisins noirs, sont de puissants antioxydants. Elles neutralisent les radicaux libres, limitant les dommages cellulaires et le vieillissement prématuré des tissus. Quant aux flavonols, présents dans les pommes ou les oignons, ils jouent un rôle dans la régulation des enzymes impliquées dans le stress oxydatif. Ils peuvent freiner certains processus inflammatoires chroniques. Chaque famille de flavonoïdes cible donc des mécanismes différents. Régulation de la glycémie, modulation du système immunitaire, protection neuronale ou encore inhibition de la croissance de cellules anormales. Ce fonctionnement pluriel souligne l'importance de la complémentarité entre les types de flavonoïdes. En combinant leurs effets, une alimentation variée peut offrir une protection élargie et plus robuste contre de multiples maladies. Une traduction concrète pour la santé publique. Cette étude marque une étape importante dans la manière de penser la prévention nutritionnelle. On s'éloigne d'une approche centrée sur les apports en grammes ou en calories. On considère plutôt la richesse structurelle et fonctionnelle des aliments. Autrement dit, ce n'est plus seulement la quantité d'un nutriment qui compte, mais la diversité des composés bénéfiques qu'il contient. Cela offre un levier d'action simple, mais stratégique pour les politiques de santé publique. Des recommandations pourraient ainsi être formulées non plus uniquement sur les groupes alimentaires, fruits, légumes, boissons, mais aussi sur leur profil bioactif, encourageant des habitudes concrètes comme mélanger différents types de fruits dans un même repas ou varier les infusions. Dans cette logique, les messages de prévention pourraient s'orienter vers des pratiques aussi accessibles que remplacer un jus d'orange quotidien par une alternance de baies, pommes et agrumes entiers. Cette approche rejoint les enjeux d'équité en santé. Elle propose des gestes alimentaires peu coûteux, compatibles avec des ressources limitées et ne nécessitant pas d'aliments exotiques ou spécialisés. Elle favorise ainsi des stratégies durables et réalistes applicables à l'échelle individuelle comme collective. Enfin, ces données ouvrent la voie à une réflexion plus large sur la qualité des régimes alimentaires au regard de leur diversité biochimique. Ce concept reste encore peu pris en compte dans les recommandations classiques. En intégrant cette dimension dans les guides alimentaires, il serait possible d'agir en amont sur les principales maladies chroniques. On miserait sur la puissance combinée des composés naturels présents dans une alimentation variée, colorée et équilibrée. C'était thé, chocolat noir et baies, ces aliments qui prolongeraient la vie. Un texte de Laurie Henry, paru le 6 juin 2025, dans Science et vie.
Bonne fête, le tour de l'île, un texte de Louise Roy, paru le 30 mai 2025 dans la presse. L'une des fondatrices du tour retrace les débuts audacieux de cet événement à une époque où Montréal comptait encore peu de pistes cyclables. Louise Roy est présidente directrice générale Tour de l'île de Montréal 1984-1987 et ex-directrice technique et coordonnatrice Vélo-Québec. Salut les cyclistes, bonjour Montréal. Le 1er juin 2025, 40e Tour de l'île, bien en selle aux Pays-Bas, où je réside maintenant, j'ai une pensée cordiale pour les artisans, les bénévoles et les participants des premières heures, les plus audacieux, qui ont donné à Montréal un festival joyeux comme un tour de vélo, un beau dimanche d'été. Cette 40e édition marque une étape mémorable pour Vélo-Québec et rappelle la méthode et le slogan du mentor de l'équipe, le regretté Guy Rouleau, « Toujours faire flèche de tout bois pour les cyclistes ». C'est ainsi que le Tour, événement emblématique, a largement contribué à populariser la pratique cycliste et à confirmer Vélo-Québec comme l'association apte et capable d'en faire la promotion tous azimuts. 40 ans plus tard, la grand-mère en moi se remémore, souriante, la petite histoire de sa fécondation. La mise au monde ne fut pas de tout repos. Or, la racontée illustre à merveille le chemin parcouru, tout en éclairant judicieusement l'œuvre de tous les vélos québécois actifs au sein de l'organisation. À l'encre rose, en 1984, Marianne Rainville, ex-présidente de Vélo-Québec, devenue rédactrice en chef de Vélomag, vient de pédaler le Five Borough Bike Tour de New York. De mon côté, après un autre voyage à vélo de plusieurs mois, j'étais rentrée au Bercail et j'avais accepté la direction de Vélo-Québec. À nous deux, nous avons conçu un projet écrit à l'encre rose, baptisé le Tour de l'île. À l'époque, quelques aménagements cyclables avaient vu le jour et plusieurs événements comme les grands relais et la Journée internationale de la bicyclette nous permettaient de rêver grand. Mais autour de nous, plusieurs trouvaient qu'on pelletait des nuages. En 1985, au mois d'août, nous profitons d'une belle occasion qui nous est offerte par le ministre des Transports de l'époque, Guy Tardif, grand-père de Laurent Duvernay-Tardif. Celui-ci nous demande d'organiser l'inauguration des premiers tronçons du réseau cyclable sur les rives de l'île de Montréal, soit la piste du parc de la promenade Belle-Rive et celle du parc nature de l'île de la Visitation, quelques kilomètres réalisés grâce à une subvention du gouvernement du Québec. Comme nous disposions d'un budget conséquent pour organiser une fête, notre petit document rose a inspiré la suite. Il reflétait le tour que vous connaissez aujourd'hui. Nous avions donc 5 semaines pour innover et réaliser ce premier tour de l'île, donner de la place et les rues aux cyclistes, prêter corps et cœur à notre rêve. Le 13 octobre 1985 fut la date retenue par le président d'honneur, Guy Tardif. C'était pas mal la limite, question température, et juste avant le début de la campagne électorale de novembre. Nous avions alors la conviction que des milliers de cyclistes n'attendaient que cette occasion. En ces temps où l'Internet n'existait pas encore, nous voilà donc partis pour rencontrer les maires avec nos grandes cartes, aussi détaillées que gigantesques, à genoux par terre dans leur bureau pour illustrer le trajet, pour qu'ils acceptent que l'on traverse leur ville et qu'ils ferment les rues pour quelques milliers de cyclistes un dimanche. À Montréal, qui n'avait alors pas le pourtour d'aujourd'hui, le maire Jean Drapeau n'était pas vendu au projet. Il voulait nous confiner à la piste Belle-Rive. Enfin, après beaucoup d'efforts pour le convaincre et tellement de sueur froide pour les membres de l'équipe de la logistique, les inscriptions sont au rendez-vous. Le dimanche 13 octobre 1985, sous une pluie très froide, le ministre, le président de la communauté urbaine de Montréal et plusieurs maires, tous ayant enfilé un survêtement jaune arborant le logo du tour, pédale le premier tour de l'île de Montréal en tête d'un peloton de 3500 cyclistes qui, à l'arrivée, envahissent le vélodrome pour célébrer les 100 ans de la Petite Reine. Le tout pour le tout. Dès 1986, notre objectif a été de nous inscrire dans le calendrier montréalais des grands événements. Et parce que nous tenions à occuper le premier dimanche de juin, on a donc organisé un deuxième tour de l'île en quelques mois. Ouf! Et cela, sans l'appui de nos principaux commanditaires. Ce fut un exercice périlleux. Notre petite équipe jouait le tout pour le tout, en partageant les heures supplémentaires, les risques financiers, plusieurs insomnies et quelques crises d'angoisse. Encore une fois sous la pluie, 15 000 cyclistes ont répondu à l'appel. L'année suivante, ils étaient 26 000 et jusqu'à 45 000 dans les années 1990. Aujourd'hui, le festival Go Vélo Montréal s'étale sur une semaine et en offre plein les pédales à tous les fans de Bessic. Michel Labrec, autre pionnier de cette grande aventure, l'a bien résumé. Le grand accélérateur des changements pour Vélo Québec a été le Tour de l'île. C'est avec le Tour que nous avons acquis une notoriété, une crédibilité et surtout une capacité financière nous permettant de mettre le vélo partout à l'agenda et d'investir tous les secteurs qui pouvaient contribuer à son développement. Il fallait une référence, un symbole, et ça a été le Tour de l'île 1. Quant à moi, Vélo Québec et le Tour de l'île ont été mon alma mater et j'en serai toujours très fière. 40 ans plus tard, maintenant que le vélo est devenu un moyen de transport actif, je tiens à saluer particulièrement Michel Labrec et Suzanne Larreau, et j'actionne 40 fois la clochette sur mon guidon en hommage aux hommes et aux femmes, artisans et bénévoles qui, d'hier à aujourd'hui, rendent tout cela encore possible. C'était « Bonne fête, le tour de l'île », un texte de Louise Roy, paru le 30 mai 2025 dans la presse.